Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme aujourd'hui avec vous en ce 23 avril. Très heureux de vous parler alors que je pense que vous en êtes conscient. Si vous nous écoutez au Québec, à Montréal, la fièvre des séries qui s'est emparée de la ville, les fanions qui sont de retour un peu partout sur les automobiles, les drapeaux un peu partout, ça sent le hockey. La série qui s'en vient à Montréal vendredi et dimanche pour les matchs 3 et 4 après les deux premières rencontres du côté de Tampa Bay. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler un peu de ce qui se passe dans les séries parce qu'il n'y a pas seulement à Montréal, à Tampa Bay qu'il y a de l'action. Il y en a, je ne sais pas si vous avez écouté, tout dépendait à quelle heure vous êtes couché hier. Entre autres, la série entre les Stars, le Wild. Quel spectacle jusqu'à présent. Les Stars qui se sont écroulés dans le premier match, mais là, on a rebondi. Hier, on l'a emporté en prolongation, but de Wyatt Johnston, ce qui fait que la série est maintenant à l'avantage 2-1 pour le Minnesota. Il y a vraiment la série Edmonton contre les Ducks, là, contre Anaheim, qui aussi bat son plein. Hier, victoire des Ducks. Il y a des questions. Connor McDavid qui a quitté vers le vestiaire, est-il à 100%? Tout ça. Leon Draisaitl aussi. Donc, beaucoup de points d'interrogation chez les Oilers. On ne parlera pas aujourd'hui de toutes les séries parce que le balado va être très long. Puis c'est aussi que si vous ne nous écoutez pas en ce jeudi, vous écoutez vendredi, bien, il va y avoir eu d'autres dénouements. Donc, on va se concentrer sur certaines séries aujourd'hui. JF, Jean-François Chaumont, Guillaume Lepage qui sont de retour de Tampa Bay, donc qui vont venir nous parler de la série entre les Canadiens et le Lightning, entre autres. Gabriel Duhamel, aussi notre collègue à LNH.com qui va être avec nous. On va parler de celle entre les Sénateurs et les Hurricanes de la Caroline. Gabriel qui est à Ottawa présentement, donc on va lui parler ce matin pour ce match qui est ce soir. Donc, écoutez, si vous nous écoutez en ce jeudi après-midi, peut-être en revenant du travail, les gens d'Ottawa, tout ça, ben avancez vers 40-45 minutes à peu près dans le balado. Vous devriez trouver le segment sur les Sénateurs. Puis après ça, bien, vous reviendrez, vous reculerez. C'est ça la magie. On n'est pas à la radio, on peut reculer. Donc, c'est le gros avantage. Donc, faites le saut vers l'avant. On va parler de ça en deuxième portion d'émission. Et comme je vous dis, bien, on est jeudi aujourd'hui. Je vous l'avais dit en levée de rideau pour le balado, lors du balado où on a fait l'aperçu de toutes les séries. Quand est-ce qu'on va avoir des balados? Ben, ça va dépendre un peu du voyagement avec les gars, tout ça. Donc, abonnez-vous, suivez-nous sur peu importe votre plateforme que vous nous écoutez, Spotify, Apple, entre autres. Abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous êtes certain d'avoir peut-être un petit avertissement, quelque chose. Lorsque une petite bulle, je sais que moi sur Spotify, c'est une petite bulle bleue. Lorsqu'il y a un nouvel épisode, donc vous êtes certain de ne pas nous rater, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux de la Ligue nationale de hockey pour être certain d'être mis au courant quand on a un nouvel épisode. Est-ce qu'on a hâte de vous parler? Les séries à date, tout un spectacle. Soyons francs, la série entre les Canadiens et le Lightning, ça ne déçoit pas du tout. C'est à la hauteur des attentes et on va parler de tout ça aujourd'hui. On les accueille avec nous pour parler de cette série entre les Canadiens et le Lightning. Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont, salut Jeff.
Salut Nick, je me demande juste pourquoi tu commences par Guillaume.
Mais ben, on a réglé ça plus tôt dans la saison que c'était mieux de commencer par Guillaume parce que tu n'as aucun talent pour comprendre comment fonctionne un montage de podcast. Puis tu dis toujours « Bonjour Guillaume! » Toi-même, tu salues avant que je l'ai présenté.
Ben oui, mais c'est juste pour détendre l'atmosphère.
Tu comprends pas qu'il y a la majorité des gens qui nous écoutent en audio. Donc, on n'a pas encore entendu parler de Guillaume avant que je le présente. Fait qu'on avait réglé ça de la sorte.
Non, mais les gens savent que Guillaume va être là de toute façon. Bon, go, on enchaîne.
Je sais, gars, ce matin, il a déménagé comme Maurice Richard, il a amené son auto pour changer les pneus, puis il est là quand même. Écoute, je vais te donner les 3 étoiles de ce podcast-là aujourd'hui, Guillaume.
Je déménage aussi samedi, mais là, il n'y a pas de match en soirée. Ça aurait pu être l'exploit de la série de premier tour, mais j'ai un petit congé. Le dieu des calendriers a bien fait ça. On avait prévu le 25 pour le déménagement et pas de match un samedi soir à Montréal en série. Donc, on est béni par le dieu des horaires qui s'appelle Steve, notre collègue de Montréal.
Le collègue de Montréal qui t'a arrangé ça, juste pour toi, pas pour les diffuseurs,
exact.
Pour rien d'autre, juste pour ton déménagement à toi. Et donc, tu de la pluie? Pas de pluie, j'espère, samedi?
Je sais pas, pas regarder ça.
C'est parce que c'est le fun d'horaire, mais tu vas voir que s'il mouille des clous, déménager, finalement, faire ça une journée de match, ça aurait pas été si payé que ça. Les gars, on se lance. Écoutez, vous êtes de retour de Tampa Bay. Vous n'avez pas eu le temps, visiblement, de prendre un peu de couleur. Mais
cette série-là...
Ouais, tu t'en, un petit peu?
Tu trouves pas?
Ben là...
Ben, il faisait très chaud, on marchait. pour se rendre à l'aréna. Puis
30,
on a eu un petit après-midi, ouais, non, 28-30, pas une goutte de pluie. Puis je regardais des fois la météo du côté de Montréal, 3 degrés, 4 degrés. Donc, il y avait un petit déséquilibre. Pas trop d'humidité aussi, ouais. Ça, c'était bien. Pour la Floride, là, c'était endurable.
Vous êtes gâtés. Canadien qui revient à Montréal avec une série égale à 1-1. Normalement, tu regardes ça et tu es vraiment, mais vraiment heureux d'un tel dénouement. C'est ce que tu veux quand tu commences une série, d'aller en chercher une à l'extérieur. Mais en même temps, tu reviens à Montréal sur deux périodes, la troisième, le deuxième match, la prolongation, qui ont été pas mal moyennes dans le code du tricolore. Vous avez retenu quoi? Vous êtes des Canadiens présentement, vous analysez comment ça s'est passé. Votre constat après ces deux matchs-là, ça se trouve être quoi?
Ben, de revenir à 1-1, normalement, tu peux dire mission accomplie, mais je me souviens des propos de Jake Evans dans le vestiaire du côté de Tampa immédiatement après le deuxième match où les émotions sont encore présentes, surtout pour un match qui se termine en prolongation. Evans disait, il n'y a rien de positif. On aurait aimé... partir de Tampa, voler les deux matchs côté sur la glace du Lightning, surtout que jusqu'à 52 minutes, ça tenait. Il restait quoi, 8 minutes environ quand Nikita Kucherov réussit à marquer. On a grandement parlé de la gaffe de Kirby Dach en prolongation, son dégagement refusé, ensuite sa nonchalance du bout du bâton contre J.J. Moser quelques secondes avant que Moser déjoue justement Jakub Dobesch. Mais sur le but égalisateur, il y a aussi une gaffe de Juraj Slafkovský qui fait une passe en plein milieu du territoire défensif qui est récupéré par Braden Point. Résultat, le Lightning finit par marquer. Mais bon, c'est loin d'être catastrophique. Ça se transforme dans une série 3-5 avec trois matchs qui vont jouer du côté de Montréal. Donc, techniquement, l'avantage de la glace revient au CH. Tu vas jouer devant l'énergie du Centre Bell. J'ai dit tantôt, Braden Point, c'était Brendan Hagel qui avait intercepté. Ouais, désolé pour la petite erreur. Hagel est tout partout sur la glace, autant physiquement que sur la feuille de pointage. Donc, c'est 1-1 après deux matchs. C'est une série. Tu sais, c'est deux équipes de 106 points. C'est deux très bonnes formations. Deux matchs qui se terminent en prolongation. C'est hyper serré, comme on avait prévu. La grande analyse scientifique qu'on faisait, c'était lance un 25 sous dans les airs, puis tu as autant de chances d'obtenir la bonne réponse, à savoir qui va gagner. Mais après deux matchs, ça tient toujours, ce discours.
Quand on regarde ce match-là, tu en as parlé, Guillaume, tu lui as parlé. Brendan Hagel a été un des fers de lance du changement de style de jeu du Lightning. On a décidé de brasser le tricolore. C'est une équipe jeune, le tricolore, puis tu veux lui mettre des obstacles dans les pattes, les forcer à réagir, les forcer à être intimidés. Autant physiquement, mais dans le système, dans tes prises de décision, dans tout ça, tu veux les déranger. C'est ce qu'on a fait de la part des Eagles. C'est ce qu'on a fait du côté de John Cooper en amenant Scott Sabourin dans ce match-là. Est-ce que ça, cette façon de faire-là, va tenir pour le troisième match quand tu n'as plus l'avantage des changements? Tu fais quoi, là? Tu peux-tu brasser autant que ça à Montréal? Est-ce que ou tu l'as fait, puis là, après ça, tu gères ça?
Non, c'est un style de jeu que le Lightning joue depuis le début de la saison. On a voulu, tu sais, Julien Brisebois en début de saison disait la série contre les Panthers l'an dernier, ben ça a laissé des traces, puis on veut plus se faire malmener comme ça, on veut plus se faire intimider. Donc, on a amené cette identité-là là, du côté du Lightning, puis c'est pas la première fois, là, tu sais, on parlait de l'indiscipline. C'est une équipe qui a été très, très indisciplinée tout au long de la saison. Puis c'est en partie à cause de ce style de jeu-là. On veut amener du papier sablé, on veut déranger l'adversaire et tout ça. Donc moi, je vois pas ça changer. Moi, ce que je trouvais bizarre, c'était au premier match. Premier match, il s'est passé à peu près rien après les sifflets. Le Lightning semblait un peu éteint. Il se passait pas grand-chose. Au deuxième match, ben tu sais... Dans la journée qui a suivi le premier match, qui a précédé le deuxième, ben John Cooper lançait des messages. Il disait on va être une équipe qui. Je m'attends à ce que le deuxième match soit plus physique. Je m'attends à ce que si, à ce que ça. Fait qu'il lançait des messages, puis on savait que ça s'en allait vers là. Puis là, quand il a décidé d'envoyer Scott Sabourin dans la mêlée, ben ça a juste confirmé un peu la décision. T'sais, il voulait allumer quelque chose. Moi, je vois pas ça changer. Puis je vois pas ça négativement pour le Canadien parce que selon ce que j'ai vu, ce que je vois au deuxième match, ce que j'ai vu dans le dernier match de la saison régulière entre les deux équipes, c'est que le Lightning le fait, mais le fait pas nécessairement intelligemment. Donc, on écope de punition. On sort un peu de notre jeu là, pendant le deuxième match. C'est quelque chose qu'on voit probablement pas à la télé, là, mais les joueurs du Lightning étaient tellement allumés sur le banc qu'il y a un appel manqué de l'officiel. Le banc au complet se levait. John Cooper criait. Tu avais l'impression que c'était une équipe qui, tu sais, le piton, il était dans le tapis. Là, puis je veux dire, ça avait pas l'air d'être une équipe en contrôle de ses émotions. Ça a failli leur faire mal à plusieurs occasions dans le match. Le Canadien a eu des chances en avantage numérique, dont en toute fin de match, le Scott Sabourin qui, tout le match, a tenté de se trouver un client, tenté de frapper ses adversaires. Là, vu Josh Anderson de dos, a décidé que c'était un bon moment pour le frapper en plein milieu de la patinoire. Avantage numérique canadien. Là, après le match, John Cooper disait, bon, Scott Sabourin, ça a amené de l'intensité. L'équipe joue plus gros quand il est sur la patinoire, mais ça reste que si le Canadien marque sur cet avantage numérique-là, rentre à la maison 2-0, le discours ne tient plus. Fait que moi, j'ai l'impression que ça ne changera pas parce que là, le Lightning a gagné. Se dit, c'est comme ça qu'il faut jouer, mais je trouve que ça peut être un grand, grand piège pour le Lightning parce qu'on a beau s'inspirer de ce que les Panthers faisaient dans les dernières années. J'ai pas l'impression qu'on le fait de façon aussi intelligente que les Panthers le faisaient. Ouais, vas-y, je vois.
Ouais, mais non, mais c'est drôle parce que c'était exactement ce qui me venait en tête. Tu sais, tu disais le banc au complet chialait après les arbitres, puis depuis le début de la saison, on le voit beaucoup, John Cooper aussi, puis Paul Maurice, je sais pas si vous avez déjà vu ça, Paul Maurice, derrière le banc, il y a un carton qui est collé avec le nom des quatre arbitres. Ah ouais. C'est écrit « Shut up » en bas pour dire « Ça, c'est les quatre arbitres. Si tu veux leur parler par leur nom, joue ça diplomatiquement, puis ferme-la. » C'est-à-dire, chiale pas après l'arbitre, discute avec lui. Tu sais, place-toi pas dans une situation où tu vas tomber dans les mauvaises grâces de l'arbitre parce que tu as trop chialé. Et je trouve justement, comme tu dis, le Lightning, ça le fait pas présentement de la bonne façon. C'est un des ajustements qu'on doit faire. Un entraîneur intelligent comme John Cooper, même je suis surpris un peu de le voir aller comme ça. Tu sais, tu es un arbitre, tu vas regarder, ça sera probablement pas les mêmes arbitres, là, je pense pas, là, mais tu regardes un peu comment ça se passe cette série-là, puis ce serait une discussion que j'aurais avec le banc ou avec l'entraîneur présentement du Lightning, comme, hey, là, laissez-nous faire. Parce que des appels manqués, là, je le sais, à Montréal, ça crie partout. Ah, tel appel n'a pas été fait, telle pénalité. Il y en a de l'autre côté aussi. Il y en a qui n'ont pas été appelés contre les Canadiens, des appels. Puis c'est du hockey de série. Là. Il va en avoir tout plein. C'est pas juste que le sifflet est rangé. C'est surtout qu'il y a tellement de coups qui se donnent partout. Je regardais hier le match entre les Pingouins et les Flyers. Il y a tellement de coups qui se donnent qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'en rater. Passe à d'autres choses. Les partisans, là, mais surtout les joueurs, passent à d'autres choses. Je trouve que les Canadiens ont justement réussi à le faire, somme toute, correctement, pas tomber dans le piège. Faut que tu fasses pareil chez le Lightning.
Oui, mais tu sais, le Lightning, je pense, la différence entre le premier et le deuxième match, le niveau d'intensité était beaucoup plus élevé. Oui, il y a eu du brasse camarade. Oui, on a joué les gros bras. Mais la plus grande arme aussi pour le CH, ça reste le jeu en supériorité numérique. 3 buts dans le premier match. 1 but au deuxième match et Lane Hudson qui frappe le poteau en fin de match pendant la punition à Scott Sabourin. Donc, tu as déjà 4 buts en avantage numérique. Tu peux pas non plus trop traverser cette fameuse ligne-là. Puis si tu reprends aussi les propos de Brendan Eagle en conférence de presse après le deuxième match où il disait « On vient de jouer notre meilleure période. » Il parlait de la prolongation.
Ouais.
Le Lightning avait dominé 9-0. Mais en prolongation, le Lightning, il n'y a pas eu de niaisage entre les sifflets. C'était du hockey. C'était le bon rythme du Lightning. Le changement aussi, Kucherov qui est venu jouer avec Cirelli puis Eagle. Est-ce que ce sera la même chose du côté de Montréal où on va vouloir répartir les forces, garder Braden Point avec Kucherov? On verra. Mais en prolongation, le Lightning est revenu à une identité de rapidité, de jeu d'ensemble, de bonnes passes, des sorties de zone rapides. Ils ont complètement dévoré le CH dans cette période de prolongation-là. Tu sais, Eagle disait que c'était une clinique d'hockey. Donc, je pense qu'il va y avoir... Tu sais, c'est difficile aussi de maintenir un taux d'animosité pendant 4 à 7 matchs. Là. Au deuxième match, je pense qu'on a voulu lancer un message.
Parce Yannick Gould,
Brendan Eagle, etc. Mais Je pense pas que c'est de cette façon-là qu'ils vont nécessairement gagner contre le CH. Le CH n'a pas reculé non plus dans le jeu de l'intimidation. Vas-y, Guillaume, excuse.
Non, moi, j'ai juste trouvé que c'était complètement fabriqué comme intensité. Tu sais, Yannick Gourde commence à faire des ailes de poulet à Herbert Jacquet, alors que c'était absolument rien passé à part du petit une échauffouré après un coup de sifflet. Puis là, on est rendu comme si c'était le septième match. Tu sais, ça, moi, j'ai trouvé que c'était un peu... Tu sais, je comprends qu'on a voulu le générer là, du côté du Lightning parce qu'on disait que c'est dans les émotions qu'on va chercher notre meilleur et tout ça. Mais tu sais, je sais pas s'il y a quelque chose de vrai en dessous de ça, à part le fait qu'on veut déranger puis qu'on veut s'allumer nous-mêmes. L'astérisque que je mettrais côté prolongation du Lightning, c'est que c'est une équipe qui avait le dos au mur, littéralement. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'était seulement 1-0, là, mais si tu sors de là avec un retard de 0-2, t'es dans le trouble en allant à Montréal. Donc, je pense qu'on a vraiment comme... allumé les on a mis la pédale au plancher en prolongation. Est-ce que ça va se maintenir au troisième match? T'sais, je pense qu'il y a un concours de circonstances aussi qu'il faut prendre en compte là, dans cette prolongation-là.
Mais, Guillaume, tu dis que c'est fabriqué, mais est-ce que c'est fabriqué ou c'est le but, c'est de faire tomber dans le piège une jeune équipe des Canadiens? Est-ce qu'on se dit on va aller chercher ce filon-là contre Herbert Jacquet, contre des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience puis qui peuvent...
Peut-être, mais on l'a fait toute la saison. On l'a fait toute la saison. Il y a même un petit surnom, là, les Bully, Lightning Bully, ou en tout cas, je ne sais pas comment qui s'appelle, là, mais on a tenté ce jeu-là d'intimidation puis de jouer les gros bras tout au long de la saison. C'est juste que moi, j'ai été surpris au premier match qu'on ne le voit pas.
Okay.
Là, deuxième match, bon, on l'a vu, on l'a généré, mais Canadien, jusqu'à maintenant, je ne vois pas une équipe qui tombe vraiment dans ce piège-là. Là, même Kucherov est allé déranger Dobesh en prolongation ou en troisième période, puis Dobesh ne l'a même pas regardé. Là, c'est comme, je sais pas, je trouve que c'est un peu... j'ai couvert les Panthers là, dans leur dernier parcours jusqu'en finale, puis j'ai pas vu une équipe qui faisait ce genre de choses-là. C'était une équipe qui était vraiment intimidante justement par leur façon de jouer puis par leur robustesse. C'était pas entre les coups de sifflet, oui, il y en avait, mais c'était pas seulement que ça. Là. Fait que j'ai un peu de difficulté. Là. Je te dirais que je trouvais ça un petit peu niaiseux par moment aussi. Là. Je pense que GF m'a entendu grogner sur la passerelle parce qu'à un moment donné, c'était après chaque coup de sifflet, on partait quelque chose qui avait... On aurait pu juste reprendre le jeu et continuer à jouer au hockey, là, mais c'était comme... J'ai trouvé ça un petit peu trop. J'espère que ça se poursuivra pas trop, là,
mais il y a un moment donné où ça a fonctionné, c'est quand Brendan Hagel a fait jeter les gants à Juraj Slafkovský,
ouais,
qu'il l'a knocké, soyons francs, un KO, un punch. Là, je veux plus jamais voir Slafkovský jeter les gants. Okay? Un, il est gros, mais il est pas bon. Il n'a pas la technique pour une telle chose comme ça. Puis deuxièmement, regardez, il y a 4 combats jusqu'à présent. Je comprends pourquoi il fait. C'est un gros bonhomme, c'est ça le code, c'est ça. Il est supposé de... Mais il l'a pas. Puis là, tu sors Slafkovský. Est-ce que ce coup de poing-là pourrait avoir des répercussions pour le reste de la série pour Slafkovský? Pas nécessairement santé, mais c'est tough pour l'orgueil. Puis peut-être que ça va lui jouer un peu dans la tête contre Hagel pour le reste de la série, lorsqu'il va arriver avec lui dans les coins, peu importe.
À la base, c'est une image que tu veux pas voir. Là. Un de tes meilleurs joueurs, un ailier de puissance, Slaf, qui reçoit là, une droite d'Hagel directement sur la joue. Brendan Hagel, après ça, qui lui fait signe qu'il n'arrive pas à la cheville. Puis bon, qui veut essayer de faire
avec, écoute,
bondir
avec
la
raison.
Foule.
Moi, tout,
bon,
moi,
et là, Hagel avait le taux de testostérone au niveau hyper élevé. Mais tu sais, Hagel, c'est le même joueur aussi. Le premier match contre l'équipe américaine au tournoi des 4 nations, c'est lui qui accepte l'invitation de Mathieu Tkachuk. Puis je me souviens, j'étais à côté de... Guillaume et moi, on était assis ensemble sur la passerelle, puis on disait, ouf, Hagel contre un des frères Tkachuk, il n'a pas la réputation d'être un dur, mais c'est quelqu'un qui est très... Il est raide, il est capable, il n'y a aucun problème, il ne reculera pas. Slafkovský, après ce combat-là, n'a pas été un facteur à 5 contre 5. Mm-hmm. Je trouve même qu'il y a eu quelques difficultés. On a parlé de son revirement, sa passe qui a mené ultimement au but de Kucherov. tu souhaites qu'il n'y ait rien de grave. Techniquement, il n'y a pas eu de commotion parce qu'on aurait demandé à Slafkovski de sortir pour suivre le protocole. Il est resté dans le match. Slaf, au premier match, a été très, très, très bon en supériorité numérique. Faut par contre que ce trio-là retrouve ses couleurs à 5 contre 5. Le Suzuki était le premier à le mentionner, qu'ils n'ont pas été à la hauteur du côté de Tampa. Je pense pas que le coup de poing ou le fait qu'il ait perdu le combat va changer la série, mais Eagle a joué son jeu. Il a joué dans la tête, tu voyais qu'il lui parlait. Du côté de TVA Sports, les analystes, Maxime Lapierre, Antoine Roussel, Antoine qui a déjà joué le rôle d'une peste, disait que Slafkovski n'avait pas
encore,
le choix.
Il joue encore, je pense. Antoine, ouais. Soyons francs, il a pas changé tant que ça en dehors de la patinoire.
Non, mais au moins, Slaf, si tu y vas simplement un contre un, Slafkovski sortait aussi un des meilleurs éléments du Lightning.
C'est ça.
C'est pas de dire ouais. Oui à un combat contre Scott Sabourin ou un Carlisle de ce monde. C'était tu sors un bon joueur pour un bon joueur. Je pense que maintenant, ce dossier-là est réglé. Slafkovski va vouloir jouer au hockey. Puis, il sait très bien que les succès de son équipe passent aussi par les succès de son trio. Donc, c'en est un qui doit se lever. Puis, peut-être que le fait que les matchs auront lieu à Montréal, tu réussis un petit peu à sortir des griffes d'Anthony Cirelli. Puis, peut-être la confrontation, le souhait, ça va être de jouer contre le trio de Yanni Gould, probablement Zemgus Gigginson puis Nick Paul, non pas contre le trio de Cirelli, Eagle et peut-être Kucherov là, à leur côté.
Tu vas avoir le dernier changement, c'est ça le gros avantage.
Oui, oui, exact. Ça peut être un gros facteur dans la balance.
Les deux prochains matchs, tu en as parlé justement, ça a été un petit peu, tu sais, je trouve dans le premier match, ça, c'est un peu passé en douce parce que justement, Slafkovski a eu son tour du chapeau. C'était tout en avantage numérique, puis c'est ça la réalité. Ce premier trio-là, c'est quoi la clé pour leur donner plus d'espace? On a parlé des changements. Y a-t-il d'autres choses? Parce que je regardais jouer, là. Tu sais, pour tous ceux, quand c'était le temps de former la formation canadienne aux Olympiques, quand c'était le temps aux Quatre Nations, puis se demandaient qu'est-ce qu'Anthony Cirelli puis Brendan Eagle faisaient là, on a nos réponses hein, depuis le début de la série. Ces deux gars-là sont exactement ce que tu veux dans des matchs comme ça. La clé, à part les changements, à part tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez qu'on peut faire?
Ben, honnêtement, moi, je vois juste le dernier changement parce que, tu sais, on a parlé dans le podcast où on mettait la table, puis on se disait, le premier trio, ça va être la cible de l'autre côté. Là. Le Canadien a carburé au succès de son premier trio, donc c'est certain que ces trois-là n'allaient pas avoir un pouce d'espace sur la glace. On l'a vu dans le premier match, je pense qu'il y a seulement Slafkovski qui a obtenu un tir à force égale. Les deux autres ont été blanchis dans ce département-là, donc... Puis, tu sais, Cole Caulfield, honnêtement, il faut lui donner. Là, il a été quand même visible sur certains replis en zone défensive. T'sais, il est impliqué dans le match, mais offensivement, c'est pas le Cole Caulfield qu'on voyait dans sa quête pour le 50e but. Là, puis, la raison pour ça, c'est qu'il n'y a pas d'espace sur la glace. Il touche à la rondelle, il y a quelqu'un sur le dos. C'est la même chose pour Suzuki, c'est la même chose pour Slafkovski. Donc, pour moi, ça va être. Il n'y a pas vraiment d'ajustement que je vois pour ce trio-là, à part le fait qu'on les libère. Il y a peut-être ça, mais avant d'aller là, je verrais le jeu des confrontations, voir comment ça fonctionne. Si Martin Saint-Louis est capable de les soustraire au trio de Cirelli, puis qu'on voit qu'ils obtiennent leur chance et tout ça, ben je pense que ça peut être positif aussi pour les deux matchs à Montréal. Après ça, on s'en reparlera pour le match 5 du côté de Tampa. Là. Est-ce que ce serait une option justement de les séparer? Moi, je considère cette option-là depuis la fin de la saison. Mais pour l'instant, à Montréal, je garderai le trio intact pour voir qu'est-ce que ça donne là, si on réussit à les enlever des griffes du trio de Cirelli, parce qu'en ce moment, c'est le plus gros obstacle là, de ce trio-là.
Puis si tu regardes les statistiques, Cole Caulfield, c'est 3 passes, mais 3 passes en supériorité numérique. Ah ouais. Même chose pour Nick Suzuki. Ça, il n'y a pas de doute. Le jeu des confrontations risque d'être hyper important du côté de Montréal, mais le premier trio a besoin d'aide aussi des deuxièmes, troisième trio. Là, le deuxième trio, c'est celui qui est sur la feuille et le quatrième. C'est le trio des vieux. C'est Jake Evans avec Philippe Dano, Josh Anderson. Anderson a marqué dans les 2 premiers matchs.
C'est incroyable.
Mais tu n'as pas le choix de voir Newhook un jour produire offensivement. Demidov aussi à 5 contre 5 doit produire. Texier, Newhook
qui est probablement
Demidov,
le joueur qui a eu le plus de chance dans cette série-là jusqu'à maintenant.
Ouais. Il est incapable de finir. Yanni Gourde, du côté du Lightning, a eu quelques chances. Puis, le troisième trio, on en a beaucoup parlé, puis c'était un point d'interrogation quand on parlait du balado la semaine dernière. Bolduc avec Kapanen et Kirby Dach. Tu places Kapanen avec deux joueurs qu'il ne connaît pas. Kapanen a connu ses meilleurs moments cette année avec Newhook, avec Demidov. Est-ce qu'il serait temps de peut-être replacer Kapanen, même s'il a été très effacé? Est-ce que tu replaces Kapanen à sa chaise avec Demidov à sa droite? J'ai hâte de voir parce que là, je trouve que tu sais les trios sandwich, là, les trios du milieu, tu connais pas réellement l'identité de tes deuxième et troisième trios. Puis sur une longue série contre le Lightning, ça peut finir par faire mal. C'est quand aussi que le Lightning a commencé à bien jouer en prolongation. C'est justement quand que Gould commençait à avoir des chances, quand que les trios secondaires étaient menaçants, ça te permet de donner de l'air aussi à tes canons offensifs. Chose que le Montréal doit se poser des questions. Puis ça, on va avoir des réponses. Là, au moment où on se parle, on n'a pas encore vu la composition des trios. Puis si on garde en tête les propos de Martin Saint-Louis pendant le Zoom légendaire de 4 minutes 50 secondes où Arpen Basu a remercié à 8 reprises son chauffeur de taxi, Martin Saint-Louis a quand même défendu Kirby Dach en disant qu'il amenait de la physicalité, lire du jeu robuste. Sur des feuilles statistiques, ça se voit pas par contre, mais peut-être que Martin Saint-Louis et son équipe ont d'autres indicateurs. La robustesse, pas simplement des mises en échec, mais grosso modo, il a voulu défendre Kirby Dach. C'est louable de défendre un joueur, mais maintenant, j'ai hâte de voir quelle sera la réaction. Parce que tu as un message aussi à lancer. Est-ce que tu gardes encore de côté Joseph Veleno, qui a donné de précieux services à l'équipe? Est-ce que tu demandes encore à Brendan Gallagher de manger du popcorn sur une passerelle de presse, qui est un vétéran, qu'on a souvent décrit comme un moteur pour la culture de l'équipe? Mais Gallagher, après le dernier match, il y avait une phase de bœuf aussi en sortant du vestiaire, puis tu peux le comprendre. Là, lui, il regarde les deux matchs, il voit certains gars qui en donnent peu ou très peu. Est-ce que tu peux continuer avec eux? Ça, c'est pour moi, c'est le gros sujet avant le troisième match de cette série.
Je vais amener un peu au niveau, on parlait du trio là, de Dach puis Kapanen, Bolduc. Ce qui peut expliquer aussi ce que Martin Saint-Louis parle de physicalité ou peu importe, là. Je regarde tout ce qui est statistiques avancées. Autant but attendu que but attendu contre, le trio de Dach, Kapanen, Bolduc est un des meilleurs depuis le début des séries. Non, mais attends,
j'ai vu ta statistique. Puis c'est le matin où je me suis dit, là, il faut déchirer certaines portions de statistiques avancées.
Non, mais quand tu regardes ça... Non, mais attends, là, mais quand tu regardes ça... Hey, les gars, attendez une minute, là. Quand tu regardes ça... C'est intéressant. Quand tu regardes, même tu as Strobel et Jack Eye qui sont dans les bons duos de la Ligue défensivement. Bien évidemment, je regardais Dach, Kapanen, Bolduc. On a surtout joué justement contre le trio de Gourde, de Nick Paul et Zemgus Gergersen. Si tu vois que ce trio-là, que à l'œil, là, le eye test là, qu'on dit, on n'est pas impressionné par le trio de Dach et compagnie, tu te dis, hey, faut vraiment que j'oppose mon premier trio au trio de Nick Paul et tout ça, parce qu'eux ne sont pas capables de fournir contre le trio de Dach. Imagine si je suis capable de placer mon premier trio contre eux autres.
Je pense que c'est plus ça l'équation, le calcul qu'il faut faire
Vous ne me laissiez pas parler, laissez-moi une chance.
Je suis content que tu te sois rendu là parce que, honnêtement, tu sais, on se parlait Kapanen à peu près invisible, Dach visible sur de mauvaises séquences. Bolduc, un peu de mise en échec, un peu de robustesse, de la vitesse, OK, mais ensemble, les trois ensemble, il n'y a rien qui se passe, là, on s'entend.
Tu préfères-tu un trio que tu vois pas, mais que justement, tu ne vois pas pour la mauvaise raison, justement en prolongation, là, mais que tu ne vois pas pour la mauvaise raison. Je ne sais pas. J'essaie de balancer ça un peu.
Tu ne veux pas en avoir deux, trois des trios comme ça que tu ne vois pas dans un match. Là,
à ligne bleue, quand tu ne vois pas, tu as mentionné Arber Jack Eye, Jaden Struble ont de bons chiffres, les indicateurs, les statistiques avancées, mais Jack Eye, Struble, ça, je donne raison au robot. J'ai aimé ce qu'on a vu des 11-12 minutes de Jack Eye et Struble. Mais c'est même du côté du Lightning, si le trio de Paul, Gergensen, Yanni Gould, à 5 contre 5, ils ont eu de la difficulté, ils ont passé trop de temps dans leur propre zone. Mais quand ça a commencé à buzzer pour Yannick Gourde, en prolongation, il jouait avec Gage Goncalves.
Goncalves.
Tout le temps de la misère, il y a trop de G dans ce nom-là. Mais tu sais, Cooper aussi avait rebrassé ses cartes. Donc, il y avait un niveau d'insatisfaction pour les deux équipes. Tu sais, souvent, on a le nez trop près de la vitrine, on regarde uniquement Montréal. Mais John Cooper doit se poser des questions aussi. Quoi faire pour relancer Braden Point? Braden Point a été très effacé dans les deux premiers matchs.
Braden Point, c'est l'histoire de sa saison. Là.
Avant,
sa
oui, saison c'est une saison décevante pour Point, si, probablement ralenti par plusieurs blessures, là, Braden
pour
Point.
C'est ça, parce que je veux dire, sinon pour les Olympiques, même avant les Olympiques où il n'a pas été parce qu'il était blessé, mais si ça n'avait pas été de sa blessure, s'il y avait un joueur sur l'équipe canadienne en attaque là, que je voyais couper, c'est lui parce qu'il n'y a vraiment pas une bonne saison.
Mais il était dans le top 6. Il avait déjà sa place assurée dans le cas de pointe.
Ben, c'est ça.
Puis Nikita Kucherov, avant de marquer le but égalisateur, tu sais, souvent, Guillaume, pendant le match, on se disait Kucherov, baboune, regarde-le, il rentre au banc, il refrappe la porte. Mais là, Kucherov qui a marqué va peut-être retrouver sa fougue, son air d'aller. Mais tu sais, il y a du bon, il y a du négatif dans les deux camps. Montréal doit rebrasser ses cartes, mais c'est possible que John Cooper et le Lightning vont rebrasser leurs cartes justement avant le troisième match.
Ouais, ce matin, je regardais, je suis retourné voir la formation du Canadien pendant la séquence de 8 victoires d'il n'y a pas si longtemps, qui coïncidait avant le retour de Kirby Dack et d'Alexandre Texier.
Ouais.
Et là, je me dis, est-ce que la porte s'ouvre pour qu'on revienne à cette formation-là qui était, je vous le rappelle, vite comme ça, bon, le premier trio a changé. Newhook, Kapanen, Demidov. Parce que Kapanen, cette saison, quand il a fonctionné, il était avec Evan Demidov. Bolduc, Evans, Anderson, moi, j'adorais ce trio-là avant qu'il soit démantelé. Là. Je trouvais que Bolduc avait l'exemple parfait à suivre sur son trio en Josh Anderson. Et là, si tu mets les deux ensemble en ce moment avec le niveau de jeu qu'offre Josh Anderson, je pense que ça peut donner de très, très bons résultats. Et Dano retrouve le centre avec Veleno à l'aile et Gallagher de l'autre côté. Moi, je trouve que là, on a fait les expériences là, avec des résultats coussi-coussa. Là, la porte s'ouvre parce que Dak, au dernier match, a été sous la loupe avec son erreur. Texier, je trouve pas que le jeu des séries correspond particulièrement à son style de jeu. moi, je trouve que Joe Veleno est un gars qui est très, très rapide, qui est robuste aussi, là, capable de donner des bons coups d'épaule. Gallagher, tu le ramènes au Centre Bell, devant les partisans, dans un match comme ça, il est reposé. Là. Je pense qu'il n'y a pas de question par rapport à son niveau d'énergie. Tu sais, je pense que c'est un gars que tu peux utiliser ici et là. T'sais, donne-lui un match le troisième, s'il fait bien, ramène-le. Mais t'sais, on peut jouer avec ça aussi. Là. Tu le retires, tu lui donnes un peu de repos, tu le renvoies. On peut jouer comme ça, mais moi, au troisième match, je vois vraiment une porte ouverte pour un retour au trio qui ont fait le succès du Canadien pendant la séquence de 8 victoires.
J'ai pas le choix de souligner toute l'intelligence de mon collègue Guillaume, mm-hmm. mais c'est exactement ce à quoi... Dans les scénarios possibles, ce scénario-là de retourner au peut-être la meilleure portion du calendrier du Canadien où ils étaient le plus dangereux, c'était justement durant ces matchs-là. Je trouve que le retour au jeu de Dak, de Texier, a fait en sorte qu'on a recréé 3 des 4 trios sans connaître de réels succès. Il faut peut-être revenir dans le passé, mais là, tu changes 3 de tes 4 trios. Est-ce que l'entraîneur va vouloir miser sur une forme de stabilité plutôt que de tout rechanger? C'est ce qui va être intéressant. Puis, tu sais, d'être loyal envers Kirby Dack ou quoi que ce soit, parce que c'est une transaction aussi de Kent Hughes, un des premiers gestes de Kent Hughes. Je pense qu'il faut oublier ça. Ça serait de créer une autre erreur si tu t'entêtes trop avec Kirby Dack, à mon humble avis.
Voilà, faut respecter la méritocratie qui a été installée par Martin Saint-Louis. Je pense que si on renvoie Kirby Dack, ça envoie un mauvais message au reste de la formation.
Et à l'inverse, les gens qui nous écoutent, Allez pas écrire ses réseaux sociaux, là. Allez lui écrire ou peu importe.
Non, donc, ça va se
passer, là. Non, mais ça, ça
peut critiquer
rien,
le joueur.
Critiquer,
sans,
critiquer
sans
les performances, le joueur. Écrire au gars, peu importe lequel, là. Peu importe les deux équipes, là. C'est du hockey, là. C'est un jeu, là. Ce qu'on a lu dans les derniers jours, c'est deux choses. Regardez, là, on parle. Ça se fait, là, parler de performance puis pas tomber dans le personnel. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait présentement. Je vous demande juste le point de vue si intelligent que Guillaume vient de nous avancer, là. Est-ce que c'est préférable de l'appliquer pour le match numéro 3 ou le match numéro 4? Parce que moi, je trouve que si tu as à le faire, c'est là, là.
C'est là que tu changes ça. C'est maintenant. Puis justement, là, au moment où on se parle, on est quoi? Là, je suis tout mêlé dans mes jours, mais on est jeudi.
On est jeudi, il est 10h35 présentement.
C'est peut-être du temps d'entraînement, il y en a très peu en série. Jeudi, c'est jour d'entraînement. Si tu veux y aller d'un changement, c'est le temps de le faire maintenant. Est-ce qu'il va vouloir cacher un petit peu son jeu? Ça, Michel Therrien le faisait à une autre époque. Martin Saint-Louis a moins cette tendance-là. Mais non, je pense que tu y vas immédiatement avec une réponse. Mais en même temps, je ne serais pas surpris que Kirby Dach reste au sein de la formation. On a beau essayer de changer, on a beau penser à plein de solutions. J'ai certaines
réserves.
C'est
que Kirby Dach, va falloir que lui comprenne qu'il ne peut plus être le joueur de hockey qu'il espérait être. Ses opérations au genou, tout ça, il n'y a pas l'explosion. T'sais, on l'a vu là, quand il est parti aux trousses de Moser là, en prolongation. Là, tu as deux choix. Soit que tu couvres le tir, soit que tu vas chercher le joueur. Mais là, il est resté pris entre les deux puis il jouait à canne à pêche. Là, il avait le bâton étiré puis tout ça. Il peut plus être le joueur troisième choix total qu'il espérait être. S'il veut rester dans la Ligue nationale de hockey, s'il veut devenir un joueur, doit changer son style de jeu, doit être plus physique, être plus défensif, être vraiment se métamorphoser pour devenir... Je veux dire, Mike McCarron a compté un but hier. Là. Il a combien d'années on a enterré à Montréal Michael McCarron en disant ce joueur-là sera jamais un joueur de la Ligue nationale, il est passé bon, il a été échangé, puis tout ça, puis tatata. Mike McCarron joue dans la Ligue nationale, il a jamais arrêté. Hier, il est en série. Le Wild a payé un choix de deuxième ronde pour aller le chercher, puis il a marqué un but hier. C'est ça que Kirby Dach doit devenir. Je ne sais pas si c'est ça à quoi Martin Saint-Louis puis l'organisation s'attend à ce que Dach devienne, ce qu'il va devenir. Parce que souvenez-vous, en début de carrière, Dach, en séries éliminatoires, c'était un gars qui c'était un travaillant, tu sais, puis on l'avait vu, puis il était capitaine d'équipe Canada avant de se blesser, puis tout ça, puis faut qu'il devienne ce joueur-là, cet autre type de joueur-là, parce que ça fonctionnera pas pour lui. Là, il est trop pris. Il a plus les éléments physiques, les qualités physiques qu'on a besoin pour devenir le joueur qu'il aurait voulu devenir. C'est comme ça que je vois ça. Le troisième match demain. Voulez-vous vous mouiller? On garde ça? Non, ben, ça vous tente pas?
Vas-y, Guillaume. Non, mais moi, je vois d'un bon oeil le retour au Centre Bell. Honnêtement, ouais, l'an dernier, ça avait été complètement fou. Et le Canadien rentrait à la maison 0-2. Là, on rentre 1-1. On est passé quand même assez près de revenir avec une avance de 2-0 contre le Lightning que plusieurs voyaient comme... inatteignable, tu sais, une grande puissance et tout ça. Là, on a montré qu'on peut faire quand même jeu égal avec cette équipe-là. Donc, je m'attends à ce que la foule soit vraiment intimidante pour le Lightning. Tu sais, on va prendre à partie des joueurs comme Eagle, comme Sabourin. D'après moi, ça va avoir des accueils assez...
Assez froid, assez
bruyant aussi et tout ça. Fait que, Eagle, je vois ça d'un bon oeil.
Eagle t'en a parlé, d'ailleurs, quand tu as parlé après le match. Il l'a dit, je sais exactement quoi m'attendre à Montréal, je l'ai vécu aux Quatre Nations.
Ouais, c'est ça. J'ai hâte d'être là. À l'inverse, c'est ça, les joueurs du Lightning peuvent s'en nourrir aussi de cette énergie-là. Mm-hmm. Ça marche pas seulement pour le Canadien, mais je pense que le retour à la maison pour l'ambiance, le retour à la maison pour les confrontations que Martin Saint-Louis va pouvoir mieux gérer, je pense que ça va aider le Canadien. Et là, lentement, mais sûrement, on avance vers les deux semaines où on va avoir une mise à jour de l'état de santé de Noah Dobson qui avait accompagné l'équipe en Floride.
C'est un gros point, là, ça. Là.
C'est ça. Si on nous dit lundi, ou si on le voit recommencer à patiner et tout ça, ça peut être un signe positif. Mais s'il ne revient pas, ben là, on va devoir se débrouiller comme ça. Mais on s'en parlait quand on marchait pour revenir de l'aréna après le deuxième match. Puis les points d'interrogation qu'on avait avant le début de la série, c'est pas ça qu'on voit en ce moment. T'sais, la défensive, on n'en a même pas parlé. Il n'y a rien à dire. C'est une défensive qui fait le travail. Dobesh est supérieur à Vasilevski jusqu'à maintenant. Les points d'interrogation sont du côté de l'attaque. On avait aussi quelques doutes parce que les nouvelles combinaisons ne donnent pas vraiment les résultats escomptés. Mais tout ça pour dire que je pense que le retour à Montréal peut aider le Canadien de plusieurs façons.
Puis le premier tir de la série, là, Jake Guentzel qui tire d'un angle impossible contre Dobesh, qui se bat avec la rondelle, fait l'arrêt difficilement. Tu te disais, OK, est-ce que c'est un jeune qui va être trop nerveux, mais il s'est ressaisi facilement? Et rapidement, Dobesh a été très, très, très bon. Alexandre Carrier, pour un gars qui avait manqué les 9 derniers matchs, a donné de précieuses minutes en compagnie de Mike Matheson dans un rôle où c'est quand même pas facile. Tu reviens au jeu, puis tu as à contrer le meilleur trio de l'équipe adverse. Donc, ça, c'est encourageant. Comme Guillaume, moi, je m'attends à ce que la foule va donner énormément d'énergie au CH. Ça va aider aussi Martin Saint-Louis dans son choix de trio, des confrontations. Mais je serais pas surpris de voir les deux équipes partagées puis qu'on reparte du côté de Tampa avec une égalité 2-2. Je m'attends à ce que ce soit un marathon, cette série-là. Ça va se graffiner, ça va être long. Mais oui, c'est Canadien à 1 et dans une bonne position.
Oui, puis tu as donné peut-être un peu plus de temps à Dobson en allant chercher une victoire tout de suite à Tampa Bay, comme ça, de ne pas le ramener tout de suite. Allez, les gars, avant de parler des Sénateurs et d'amener notre collègue Gab dans le balado, je veux qu'on jase un petit peu de la série entre les Pingouins et les Flyers. Guillaume, moi...
Mais je vais faire mon meilleur culpa, là. Je vais commencer. Là. Je me souviens que j'avais dit que Dan Vladar n'était pas Dominique Hašek et que Porter Marton restait un genou. Je dois m'excuser sur les deux parce que Dan Vladar joue bien. Porter Marton est très, très, très bon. Puis hier, pour une première fois, j'ai eu du temps pour m'asseoir et réellement regarder le match. C'est la belle histoire des Pingouins. On dirait que c'est en train de se dessouffler. Il manque de rythme. Tu ressens une certaine fatigue. Crosby qui se fâche. Evgeny Malkin aussi est un petit peu plus effacé. Anthony Manta qui hier prend une mauvaise punition. Les Flyers on domine pour l'instant. Je ne croyais pas voir par contre une victoire facile des Flyers, mais maintenant c'est 3-0 après trois matchs. Puis Porter Marton est un grand, grand, grand morceau de cette domination des Flyers. Donc, mauvaise lecture de ma part. Je voulais voir la belle histoire se poursuivre. Ouais. C'était mon côté nostalgique de voir l'époque des Pingouins.
C'était une lunette rose, là.
Mais peut-être justement que les Pingouins auront réussi une certaine forme de mission, celle d'atteindre les séries. Mais advenant une élimination aussi rapide, ça vient quand même détruire le petit conte de fées.
Moi, je remarque dans cette série-là, il y a deux choses. Premièrement, les Pingouins ne jouent pas leur style de jeu. On joue comme les Flyers voudraient que les Pingouins jouent.
Ouais.
C'est du jeu physique, on fait sentir les gants à chaque arrêt de jeu, ça se chamaille. Puis les Pingouins sont pas intelligents là-dedans. On devrait juste tourner le dos puis laisser les Flyers écoper de pénalités puis après ça, se revenger en avantage numérique. C'est pas ce qu'on fait. Oui, c'est la bataille de la Pennsylvanie, mais je suis vraiment surpris de la façon que les Pingouins ont réagi avec une équipe qui a autant d'expérience. Tu sais, Sidney Crosby, là, c'est sûr qu'il est probablement pas à 100%, là, mais un point en trois matchs, il est moins trois, il y a 6 minutes de pénalité, Sidney Crosby. Mm-hmm. On est sur son cas. Puis à l'inverse, tu regardes là, les Flyers, là, c'est tout des... Le mot là, en anglais, en français... Ben, c'est le même mot. Techniquement, c'est le même mot en français. Renegades, c'est des gars... Il y a beaucoup de gars qui ont... il s'est dit beaucoup de mal sur eux dans les dernières années pour X, Y raisons. Rasmus Ristolainen, qui n'avait pas encore joué un match de série dans sa carrière, c'était rendu un gag. Trevor Zegras, pas assez bon. Il est ci, il est ça. C'est pas travaillant. C'est un flasheur. Les Ducks l'échangent. Regardez-le jouer depuis le début des séries. Sean Couturier et
Mais
son
quatrième trio des Flyers, wow.
Ils sont incroyables. Puis Couturier, souvenez-vous, l'année dernière, quand il est venu à Montréal, il était au summum de la baboune parce que lui et John Tortorella, ça pouvait plus se sentir. Il était dans son... J'étais là, le match qui était là, puis il était... vraiment comme visiblement amer de tout ce qui se passait. On a tassé Tortorella. Rick Tocchet arrive, puis je le dis toujours, c'est tout un entraîneur, mais il a discuté avec Couturier, il a fait comprendre, tu peux plus être un joueur de premier, deuxième trio, mais j'ai un rôle pour toi, puis si t'es prêt à le prendre, c'est un rôle physique, c'est un rôle défensif, mais à un moment donné, il va peut-être avoir un peu la sauce, le gravy, il va peut-être avoir un petit peu de production qui va venir avec ça, puis c'est ce qui arrive depuis le début de la saison, Couturier, depuis le début des séries, Couturier, il est incroyable avec Garnett Attaway. Hein, vous aviez tous et Garnett Luke Attaway, trois points en trois matchs. Lou Glendening, puis tout ça. On joue à merveille. Tu sais, je ne sais pas, le Dan Mews, c'est un entraîneur-chef recru dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas s'il y a une partie d'explication là-dedans, mais la manière de jouer des Flyers, écoutez, diriez-vous qu'ils sont même, peut-être, parce que là, on enterre tous les Pingouins, là, je ne vois pas comment on peut revenir, là, mais est-ce que ça fait de vous, selon vous, une équipe des Flyers dangereuse pour le reste des séries ou ça fonctionne là contre les Pingouins parce que les Pingouins sont tombés dans leur jeu?
J'ai un peu de misère avec... parce que je pense que c'est le format qui fait en sorte que les Flyers risquent d'être la première équipe qui vont passer au deuxième tour dans l'Est. Là,
dans une division plus faible.
Dans une division plus faible, si on n'affronte pas les Pingouins, est-ce qu'on a le même résultat? Je pense pas. Oui, ça peut faire d'eux une équipe dangereuse parce que c'est le troisième meilleur dossier pour terminer la saison là, après les Olympiques. Rentre en série, trois victoires consécutives, si on complète le balayage, ben là, le niveau de confiance va être à son sommet. Après ça, on affronte les Hurricanes à Caroline qui, oui,
ou
c'est
ou les
une
Sénateurs
équipe
que tu vois en finale, là, soyons francs, là, faut pas
oui, c'est vrai.
Là. C'est vrai.
J'avais oublié les Sénateurs, mais tu sais, dans l'Est, c'est assez jouable. Là. Peu importe qui tu affrontes en deuxième ronde, il y aura pas trop de il y a des embûches, mais il y a pas de monstre dominant qui est assuré de se rendre en finale. C'est ça, c'est assez ouvert. Mm-hmm. Fait que oui, ça peut être une équipe dangereuse parce que le niveau de confiance depuis les Olympiques est à son plus haut. Ensuite de ça, ben là, si on parvient à compléter le balayage contre les Pingouins, ça va être une machine qui va être dure à arrêter, les Flyers. Puis, on va être relativement reposé. Si on limite ça à quatre matchs au premier tour, ben c'est toujours un avantage pour l'équipe qui réussit le balayage.
On poursuit l'émission. On s'en va du côté d'Ottawa pour rejoindre notre collègue chez LNH.com, Gabriel Duhamel. Sa toute première apparition sur le balado. On est heureux de lui parler aujourd'hui pour la série entre les Sénateurs et les Hurricanes. Salut, Gabriel.
Salut, les gars. Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, merci.
Ouais, tu vois PS Tendresse, le gars, ouais, matin. Un peu. Hein? Deux pattes d'ours, la voix tiraillée un peu.
Je pensais pas qu'on allait parler de pattes d'ours dans la première apparition.
Il n'y avait aucune chance que ce soit autrement qu'on parle de ta diète pattes d'ours et compote. Mais bon, ton déjeuner des champions, aussi tes collations, parfois tes soupers. Mais pour le reste... On ne parlera pas trop de gastronomie, là, on va parler de la série. Parce que jusqu'à présent, pour les fans des Sénateurs, on n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Hein? Pas pire, le lien, quand même. Hein? Mais je fais des efforts.
Impressionnant.
On tire de l'arrière, 2-0 contre les Hurricanes. Premier match plus difficile. Deuxième match, du positif sur quoi construire. On peut peut-être cuisiner ça un peu plus du côté des Sénateurs, ce qu'on a fait comme performance dans la deuxième rencontre. L'équipe est revenue hier du côté d'Ottawa. Tu étais là à la pratique. Tu t'en vas justement à celle de ce matin à l'entraînement. Puis le match ce soir, on va pouvoir lire tous tes textes sur LNH.com. C'est quoi le mood présentement, le sentiment dans ce vestiaire-là alors qu'on tire 2-0 contre une équipe qui est assez difficile à déchiffrer des fois les Hurricanes? Il faut trouver des moyens de marquer contre les Hurricanes, puis c'est pas le cas jusqu'à présent dans la série.
Bien, Nicolas, je suis d'accord dans la mesure où les Sénateurs n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent au chapitre début parce qu'ils en ont marqué que deux là, en deux matchs jusqu'à maintenant. Mais je crois quand même que l'équipe a beaucoup aimé sa deuxième moitié de match lundi en Caroline. Une première moitié de match que l'entraîneur Travis Green décrivait comme étant comme quoi son équipe prenait trop de risques. Je pense qu'il disait que son équipe aime jouer de manière agressive, mais que là, c'était sur-agressif, là, qu'on en mettait trop. Les Hurricanes ont rapidement pris les devants 2-0 dans ce match-là. Puis par la suite, là, il a beaucoup plus aimé ce qu'il a vu là, de son équipe. Et ça a été la même chose aussi. C'était la même impression là, que les joueurs avaient dans le vestiaire. On a senti qu'on avait dominé la prolongation, également la deuxième moitié de match. T'sais, l'équipe est passée à deux... disons, à quelques millimètres, à deux reprises là, de remporter ce match-là en prolongation. Je pense notamment au poteau qu'a frappé Michael Amadio qui a failli là, donner la victoire aussi. Il était seul devant Frédéric Anderson. Donc, clairement, l'équipe est encore optimiste de pouvoir renverser la vapeur dans cette série-là. Puis, je pense pas forcément là, qu'il y ait de découragement ou quoi que ce soit. Du moins, c'est pas ce que les joueurs laissent paraître là, présentement.
On en parlait tantôt dans notre segment sur les Canadiens. L'avantage de la glace, c'est pas juste la foule, c'est comment tu places tes trios. Puis contre une équipe, contre les Hurricanes, qui a des trios qui sont, tu sais, quand même équilibrés, puis quand même qui jouent bien dans le système, à quel point tu t'attends à ce qu'il y ait une différence dans ce qu'on va faire chez les Sénateurs présentement? Quand même, puis faut le dire, les Sénateurs ont quand même aussi un bel équilibre là, sur leur trio, là.
Mais clairement, je crois que les Sénateurs ont compris qu'ils ne pouvaient pas laisser les Hurricanes dicter le rythme du match parce que on l'a vu souvent dans les dernières années, quand les Hurricanes réussissent à imposer leur style dans un match, ça donne souvent environ le même style de match et c'est souvent les Hurricanes qui finissent par avoir le dessus. C'est pas pour rien que l'équipe s'est rendue en finale d'association aussi souvent dans les dernières années. Donc, je crois que les Sénateurs ont compris qu'ils devaient imposer leur style de jeu. C'est ce qu'ils ont fait en deuxième moitié de match. C'est pas forcément... C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire contre une équipe qui a eu autant de succès pendant autant d'années. Mais s'ils bâtissent sur ce qu'ils ont fait là, dans les dernières minutes, je crois que ça peut se faire. Les Sénateurs, pardon, ne jouent pas un style de jeu qui est diamétralement opposé à celui des Hurricanes. Je crois que c'est une équipe qui aime ça, concéder le moins de chances de marquer possible, jouer, oui, avec un peu d'agressivité, mais pas trop de prise de risque non plus. Je pense pas qu'ils vont changer du tout au tout leur manière de jouer dans les prochains matchs. Je crois qu'ils ont confiance à la recette qu'ils ont en ce moment. Il reste juste à l'appliquer, évidemment.
Regarde, du côté de la ligne bleue des Sens, oui. En fin de saison, on a vu une défensive des Sens où c'était pratiquement la Ligue américaine au grand complet qui était en une forme. Malgré tout, ils ont réussi leur poussée vers les séries. Là, on se retrouve au premier tour contre les Hurricanes, puis il manque encore une fois des joueurs importants. On passe à Nick Jensen, Artem Zub qui a été blessé au premier match.
Tyler Cleveland
qui a patiné hier, si je ne me trompe pas, pour l'entraînement optionnel. Puis on a pressé le citron quand même avec les deux prolongations. Jake Sanderson, Thomas Chabot ont joué de grosses, grosses, grosses minutes. Est-ce qu'il reste assez d'énergie dans les jambes des Sanderson, Chabot? Puis est-ce qu'un retour possible de Tyler Cleveland pourrait donner un coup de main?
C'est clair que le retour de Tyler Cleveland pourrait aider. On le connaît peut-être peu là, ailleurs dans la Ligue nationale, mais c'est un défenseur qui rend extrêmement bon service aux Sénateurs. C'est, je dirais, leur défenseur numéro 5 cette saison. Petite statistique pour vous, Jake Sanderson a joué lundi 43 minutes 6, Thomas Chabot 40 minutes 50. Et imaginez-vous que les deux défenseurs manquaient à l'appel en fin de saison pour les Sénateurs.
C'est ça,
ils sont revenus au jeu. Ça fait, on ne sait pas s'ils sont à 100% ou non, mais ça fait pas très longtemps qu'ils sont de retour au jeu. On peut se douter que pendant que les Sénateurs étaient dans la course aux séries, on a voulu les revoir le plus rapidement possible. Ils ont passé l'équivalent de deux matchs sur la glace, là, imaginez. Évidemment, on ne les a pas vus à l'entraînement d'hier. Ils en prennent beaucoup sur leurs épaules présentement. Je pense que tout le monde à Ottawa aurait avantage à ce que les défenseurs comme Tyler Cleveland ou Artem Zub, qu'on n'a pas encore écarté pour le reste de la série, c'est sûr qu'on aurait tout avantage à ce qu'ils reviennent au jeu. On risque d'apprendre justement le plus de détails sur la présence de Tyler Cleveland tout à l'heure. Du côté d'Artem Zub et de Nick Jensen, là, ça regarde un peu plus mal, disons, pour le match de ce soir du moins.
C'est plate parce que Zub avait été peut-être le seul rock en fin de saison. Je veux dire, c'est un défenseur que je le trouve sous-estimé. C'est un gars qu'on parle pas beaucoup. Son nom revient pas souvent, surtout au Scrabble. Ben, il y a un Z, mais trois lettres, c'est pas ça qui est le plus payant. Mais,
ça se place bien. Mais...
C'est ça se place bien, mais justement, il manque ça. Quand tu as une équipe comme ça, qui est jeune, qui a des éléments qui tombent, Zub, c'est un vétéran, des fois, il faut que tu tournes vers ton vestiaire puis tu as besoin de t'inspirer un petit peu. Il y en a un morceau qui en a de l'expérience dans ce vestiaire-là, c'est Lars Eller, qui l'a vécu avec les Canadiens, mais qui l'a surtout vécu dans la conquête de la Coupe Stanley avec les Capitals en 2018. Et tu y as parlé hier à Lars Eller. Comment il vit ça un peu, cette course-là aux séries, cette course, comment il a vécu la course aux séries, puis maintenant ce qu'on vit chez les Sénateurs, à titre de grand-papa dans le vestiaire des Sénateurs?
C'est sûr que Lars Eller n'occupe pas le même rôle que lorsqu'il avait 27 ou 28 ans, où on l'a connu un peu plus jeune aussi, de plus près avec les Canadiens de Montréal, mais c'est sûr qu'à 36 ans, il est le centre du quatrième trio. Il a joué environ 7 à 8 minutes là, dans le premier match, un petit peu plus dans le deuxième, évidemment, qui s'est soldé en deuxième prolongation. Donc, c'est pas du tout le même rôle sur la glace, du moins. Mais l'apport d'un vétéran de 36 ans pendant les séries dans le vestiaire, ça doit être extrêmement important. Et je crois que Lars Eller avait un discours très, très rassurant là, hier quand on lui a parlé. Clairement, il n'avait pas d'inquiétude par rapport à ce que son équipe était capable de faire et par rapport au fait qu'ils étaient capables de renverser la vapeur. Lui-même, avec les Capitals de Washington en 2018, il avait réussi à renverser la vapeur. En fait, son équipe et lui l'avaient réussi en tirant de l'arrière 0-2 contre les Blue Jackets. Ils avaient remonté, gagné les quatre matchs suivants, avaient éliminé les Blue Jackets en six matchs. Et cette année-là, ils avaient remporté la Coupe Stanley. Et il faut souligner que Lars Eller, c'est lui qui avait marqué le but gagnant en deuxième prolongation dans le match numéro 3. Et c'est ce qui avait été le début, finalement, là, d'une véritable éclosion pour les Capitals cette année-là. Donc, Lars Eller, il a été au milieu de ces situations-là. Des gars aussi dans le vestiaire des Sénateurs comme Claude Giroux aussi qui a vécu, ça fait très longtemps, ouais. C'était en 2010, mais il avait vécu la remontée de 0-3 des Flyers contre les Bruins de Boston. Donc, on a des gars qui ont été dans des situations précaires, qui ont réussi à s'en sortir très bien. Et je crois que ça aide les jeunes joueurs des Sénateurs à y croire. Parce que autrement, Brady Tkachuk, Tim Stützle, ça n'a jamais été... Disons, ça a été exposé à très peu de situations différentes en série jusqu'à maintenant. Ils ont simplement vécu là, le parcours éliminatoire de l'an dernier contre les Maple Leafs, mais c'est très peu. Donc, c'est sûr que c'est important d'avoir des gars comme Lars Eller ou Claude Giroux, par exemple, dans ce vestiaire-là. Simplement, au niveau mental, c'est sûr que c'est d'une grande aide.
Gab, est-ce qu'on a ramené les bons vieux clichés là, du côté des Sens d'aller mettre du trafic devant le gardien et tout ça? Parce que Frédéric Anderson, pour nous, je pense, la semaine passée, quand on s'en parlait, les points d'interrogation étaient quand même nombreux là, du côté d'Anderson. Mais là, pour l'instant, ça semble assez bien fonctionner. Est-ce que ça... T'as l'impression que ça commence à jouer dans la tête des joueurs des Sénateurs, là, le fait qu'ils ne cèdent pas beaucoup de buts jusqu'à maintenant?
J'ai pas l'impression que Frédéric Anderson joue dans la tête des joueurs des Sénateurs. Je crois qu'on considère qu'on fait armes égales jusqu'à maintenant en termes de gardien. Linus Ullmark fait très bien aussi depuis le début de cette série-là, même s'il a accordé plus de buts qu'Anderson. Évidemment, il est plus solide qu'en saison régulière, Frédéric Anderson, mais il a aussi eu l'aide de ses poteaux. Par exemple, dans le dernier match, on a répertorié 5 poteaux bord horizontal des Sénateurs d'Ottawa. Les Hurricanes, eux, n'ont jamais... finalement frapper le poteau. Donc, je crois pas nécessairement que c'est le gardien plus que ce qu'ils appellent en anglais la puck luck, disons. Là, j'ai l'impression que du côté des Sénateurs, on joue plus là-dessus. On parle pas vraiment de Frédéric Anderson, plus que du fait que si on continue à justement, envoyer les rondelles au filet à faire ce qu'on fait, ben à un moment donné, les probabilités vont jouer à notre faveur. Parce que je pense que présentement, les joueurs de l'équipe considèrent qu'ils méritaient plus que 2 buts depuis le début de cette série-là. Donc, s'ils continuent à jouer comme ça, si on suit leur logique, ils en marqueraient un peu plus que 2 ou seulement 1 là, ce soir ou même samedi.
Tu gardes intact les mêmes trios. Tu sais, tu penses quoi de la performance justement de Brady Tkachuk, Tim Stützle jusqu'à présent depuis le début de la série? Est-ce qu'on doit commencer éventuellement à étudier des possibilités peut-être d'équilibrer peut-être plus l'attaque chez les Sénateurs? C'est quoi le plan là? Parce que soyons francs, si tu gagnes pas à soir, ça se peut que ça soit court. Là. Visiblement, la prédiction de Guillaume d'envoyer les Sénateurs en finale, ça commence à être sur la problématique, je vais dire. Je vais dire de la
sorte. C'est une question de puck luck. J'ai encore confiance. Ça va tourner.
Mais
Tim Stützle a manqué environ 22 chances juste au dernier match. Donc, ça pourrait finir par rentrer.
Je pense pas que des joueurs aient été mauvais jusqu'à maintenant, mais je pense que clairement, du côté, tes meilleurs joueurs doivent être tes meilleurs joueurs sur le plan statistique. C'est un échantillon de seulement deux matchs, donc on ne doit pas s'inquiéter du fait qu'ils aient été blanchis. Mais éventuellement, ils vont devoir finir par marquer un ou deux gros buts. On ne peut pas seulement se contenter de générer plusieurs chances de marquer. Je pense que ces joueurs-là sont au courant qu'ils doivent eux-mêmes prendre charge de l'attaque de cette équipe-là. On a très peu de détails pour l'instant sur la composition des trios là, pour le prochain match. Probablement qu'au moment que vous écoutez ça à la maison, on va en savoir plus, évidemment. Mais nous, de notre côté, Travis Green, il a entretenu le mystère là, après l'entraînement de mercredi. On l'a vu faire deux changements à son attaque lors du dernier match en cours de rencontre. Il avait mis Brady Tkachuk sur le premier trio. Il est passé du deuxième au premier. Et Warren Fogle est passé du quatrième au troisième trio. C'est tout ce qu'on a vu, mais après que ces changements-là aient été faits, on a vu des Sénateurs beaucoup plus animés en attaque. Donc, peut-être que c'est une partie de la solution. On verra. Comme je vous dis, là, pour l'instant, très peu de détails, mais probablement qu'à 0-2, on va être tenté de tester des nouvelles combinaisons, même si on dit qu'on est satisfait jusque-là là, du volume de chances de marquer là, depuis le début de la série.
Moi, et toi, donc, un peu, qui l'emporte ce soir?
Je sais pas, tu me prends de court là, Nicolas. Je sais pas. Je pense que le retour à la maison des Sénateurs peut leur faire du bien. Encore une fois, ça risque d'être une partie disputée par un but. Je vais dire 2-1 Sénateurs.
Bon, voilà. Mais ce qu'on sait, on ne connaît pas encore les trios, mais on sait que tu fais ton lit d'une façon exemplaire.
Oh, oui.
Les trois oreillers derrière, bien placés.
Tu n'as pas la caméra de l'autre bord, mais...
Non,
c'est parfait.
Je ne suis pas un expérimenté des déploiements sur la route, mais le lit, je sais, c'était une bonne...
C'est bien.
C'est un bon point de départ.
Tu as une belle marche aussi entre ton hôtel et l'aréna. Une des plus belles marches au niveau canadien, là, Canada, ce petit kilomètre et demi qui te mène à l'amphithéâtre au milieu de nulle part,
voilà. C'est dans les endroits bucoliques.
Palladium Drive. Sachez que je profite de la vue chaque jour. C'est magnifique.
Fais attention, la dernière fois que je suis allé là, j'ai vu un coyote en revenant du match. Là. Fait que traîne un petit pauvre de Cayenne là, si jamais.
Ça, c'est quand tu restes pas pris dans les ascenseurs aussi, Guillaume. Là, c'est...
Ouais, attention aux ascenseurs. Je te souhaite bonne chance avec ça.
Guillaume, quand il va à Ottawa, soit qu'il reste pris dans un ascenseur ou il attrape la rage. C'est un des deux. C'est un choix. Pris dans un Ottawa, dans un ascenseur pour le réveillon du nouvel an. C'est surtout ce coche-là qui est encore plus.
C'est bon, quand même.
Non, mais là, t'ajoutes des choses. Là. Oui, t'enjolives l'histoire, mais c'est correct.
Non, c'était dans le coin du 4 janvier.
Ah, mes excuses.
C'était le 2 janvier parce que c'était l'élimination du Canada en quart de finale. Mais c'est correct, on peut améliorer l'histoire. Hein? C'est ça qu'on fait sur le beat. Les anecdotes qui datent d'il y a 10 ans, c'est rendu...
Tu ne serais pas le premier dans le domaine.
Ouais, vas-y, Gab.
Encore hier, je jasais avec des collègues francophones qui racontaient l'histoire de l'ascenseur.
Bon.
Je pense que c'est Zachary Mercier du Journal du Droit qui n'a pas été pris dans l'ascenseur, mais qui a été pris pour vous transmettre les citations des points de presse par après, qui avait trouvé ça bien drôle de vous voir une heure plus tard sortir de l'ascenseur. On en parle encore aujourd'hui.
Si tu cherches un bon raconteur qui est aussi dangereux qu'un coyote, il y a Joshua Clipperton aussi. Donc, tu le salueras ce matin.
Ça y est.
Une autre mention. Salut, bon Josh Clipperton.
On le salue. Hey, merci, Gab, d'avoir été là ce matin avec nous. On te laisse partir. Tu t'en vas à l'entraînement des Sénateurs. Le match ce soir, t'es là tout le week-end du côté d'Ottawa pour nous raconter ce qui va se passer avec les Sénateurs. Merci pour cette première présence sur le balado.
Oui, merci les gars.
Et chers auditeurs, merci aussi. Bien, GF, Guillaume, merci aussi à vous deux d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Comme je disais, si l'ami Gab était du côté d'Ottawa, vous autres, vous êtes à Montréal à 100% Canadien Lightning pour les prochains jours. Donc, les gens vont pouvoir lire ça. Merci encore de votre présence ce matin.
Ça fait plaisir.
Chers auditeurs, ben, vous aussi, merci d'avoir été là. Comme je dis, suivez-nous, réseaux sociaux, tout ça. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu présentement. Tout ce qui est séries éliminatoires, réseaux sociaux, on est là. On est là pour vous. Manquez rien du reste de la première ronde des séries éliminatoires. Prochain balado, probablement, on va regarder, mais ça devrait être entre le match 4 et 5 de la série Lightning canadien. La journée exacte, on verra selon quand est-ce que nos deux collègues sont en avion ou non, en déplacement. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.